Notre Dieu et Père, c'est avec une profonde reconnaissance que nous te disons merci pour ta parole. Nous voulons aussi l'ouvrir avec toute l'écoute que nous voulons t'apporter, Seigneur, pour la recevoir et en vue de la mettre en pratique, Seigneur. Nous comptons sur toi et sur le secours que tu nous apportes par ton esprit. Te prions au nom de Jésus. Amen. Je reprends la série que j'ai interrompue il y a quelque temps sur les idoles de nos cœurs. Dans Deutéronome, pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre cette lecture dans Deutéronome au chapitre 4 au verset 28. Vous savez que ces passages sont fondateurs du peuple d'Israël, donc de l'Alliance. Et dans Deutéronome 4, 28, il est écrit dans tout le contexte de cette révélation où l'Éternel parle à Moïse et à son peuple. Il dit, là, vous rendrez un culte. Alors attendez, que je me trompe pas. 4, 28. Oui, c'est là que vous rendrez un culte à des dieux, œuvre des mains d'hommes du bois de pierre qui ne peuvent ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Et je pense que j'ai pas pris le bon verset, mais qui parle de se tenir à l'écart de tout ce qui est idolâtrie, c'est dans ce passage-là. Mais Jérémie aussi, qui parle de cela, pour nous inviter à nous éloigner de tout ce qui concerne les idoles, Jérémie 10, verset 5. Ces dieux, donc, que vous adorez, sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas, on les porte parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Les idoles en général, il est beaucoup question des idoles dans la Bible, tout simplement parce que ça représente un grand, grand danger pour notre foi et pour notre vie chrétienne. Elles sont inertes, elles sont muettes, elles ne peuvent rien faire. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur des idoles. Elles ne sont rien, ce sont des représentations que les hommes font d'une certaine réalité qu'ils imaginent, mais elles ne sont rien. Quelle est l'attitude du croyant? C'est dans acte 17 que nous avons aussi cet enseignement de l'Écriture, acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Ainsi donc, c'est Paul qui parle, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Et sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc là, Paul, quand il s'adresse aux Athéniens, il dit, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser à ce que, etc. Voyez-vous, quelque part, l'idole est un blasphème, dans la mesure où nous-mêmes, qui sommes de la race de Dieu, Dieu nous a fait à son image, adorer quelque chose qui est un objet tout simple, qui ne représente rien de Dieu, et le rendre comme Dieu, eh bien déjà c'est un blasphème pour Dieu, et aussi une honte et une vanité pour nous. Et donc il dit que nous ne devons pas penser à ce que la divinité soit semblable à toutes ces choses-là, puisque déjà là, nous sommes en contradiction complète avec ce que Dieu a fait de nous, qui ressemblons à Dieu. Le danger réel de l'idolâtrie, ce n'est pas l'idole, ce sont les démons qui sont derrière ces idoles. Tout simplement parce que toute adoration est spirituelle. toute adoration est recueillie quelque part par des esprits. Ou alors c'est l'esprit de Dieu qui est adoré parce que nous le faisons explicitement, comme nous le faisons dans les cultes, dans nos rencontres, dans votre piété personnelle. Mais il y a un danger. C'est de s'adresser à des idoles au lieu de Dieu. Et c'est un peu ça que je veux faire dans ces enseignements-là. C'est pour montrer que même ça dépend de notre cœur. Hein. De notre cœur, suivant qu'il est orienté vraiment vers Dieu ou vers des choses que Dieu donne. Hein. Et là, ça devient dangereux parce que il y a les démons derrière qui s'en emparent, qui ont des droits et qui exercent ces droits sur nous. Dans Deutéronome, au chapitre 11, au verset 16, Deutéronome, au chapitre 11, verset 16, donc on retourne dans l'Ancien Testament, 11, verset 16, il dit « Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. » La séduction, c'est de se mettre à part, c'est-à-dire de séduire, ça vient de couper, hein, ça vient de mettre à part. Donc gardez-vous que votre cœur, qui s'écarte, hein, qui part normalement d'une bonne intention, celle d'adorer Dieu, de louer Dieu, eh bien d'adorer des idoles, c'est un danger qui nous menace tous. D'ailleurs, c'est un tel danger qu'il y a des chrétiens qui sont dans le déni. C'est étonnant parce que, pourquoi ? Il y a des chrétiens qui pensent que d'autres chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Ça a été toute une chronique il y a une vingtaine d'années où des chrétiens évangéliques, je parle, combattaient ces choses-là, c'est pas possible, et ils s'affrontaient. Est-ce que vous pouvez, en tant que chrétien, avoir un rhume? Non? Ou vous avez jamais de rhume? Vous avez une grippe? Jamais une grippe? Non. Vous voyez, on pense, alors ça paraît normal, et être harassé ou être, disons, importuné par des démons, un chrétien, il n'aurait pas ça. Non. Vous voyez, parce qu'on a des idées comme ça, des idées. Il y a des chrétiens évangéliques qui pensent qu'un pasteur ne peut jamais mentir. Vous voyez, bon, j'ai entendu ça. Mais vous voyez, des idées préconçues comme ça, eh bien, nous amènent dans un monde naïf, et donc on est très très vulnérable. Penser qu'un chrétien ne peut pas adorer d'idole, c'est du même ressort. Nous sommes tous quelque part idolâtres. Et comme je vous l'ai dit, et ce livre qui m'a beaucoup parlé montre que notre cœur est une fabrique d'idoles à grande échelle. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête, c'est que notre être déchu fait que notre cœur fabrique des idoles en permanence. Donc, le problème, c'est de sortir de cette idolâtrie, et l'apôtre Jean l'a très bien dit, hein, dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Donc, il y a un danger permanent, un danger permanent. Dans Luc, au chapitre 26, verset 1er, Jésus rappelle cela, il dit « Vous ne vous ferez pas d'idole devant ma face ». Donc ce danger est réel. Dans Colossiens, donc Paul dit dans Colossiens 3, verset 5, il dit que la soif de posséder est une idolâtrie. Il définit l'idolâtrie comme la soif de posséder. Voyez-vous, les évangéliques, nous, on est très très facile à pointer les catholiques. Ah oui, ils ont des statues, ils ont des idoles, etc. Mais là, il n'est pas question de statues, il est question de la soif de posséder. Or, je vois beaucoup d'évangéliques qui ont une soif de posséder. Et on a tous une soif de posséder. Ce qu'il faut, c'est s'en défaire pour pas que ça devienne une idole. Parce que le fait de posséder, c'est naturel. Mais comme je vous l'ai dit, l'idole, c'est toujours quelque chose de bon qu'on pousse à l'excès. Donc c'est toujours quelque chose qu'on a besoin, fait partie de nos besoins, mais le besoin poussé à l'excès devient une idole. Vous voyez, c'est pour ça que on voit bien que le danger est permanent pour nous d'idolâtrer quelque chose. Au lieu d'adorer Dieu, nous adorons facilement une idole. Donc la soif de posséder. Or vous savez qu'aujourd'hui le monde entier, y compris le monde communiste qui a chuté, qui s'est ouvert à l'économie de marché, tout le monde a soif de posséder. Donc c'est une idole au niveau de la planète entière, hein, qui aussi nous pousse au travers de la publicité, au travers qui ne reçoit pas aujourd'hui dans sa boîte aux lettres tous les jours des occasions de faire du crédit, d'acheter quelque chose, etc. Vous voyez, c'est cette soif de posséder, ce profit, ce posséder l'argent. Et l'apôtre dit, la soif de posséder est une idolâtrie. Le problème de l'idolâtrie, c'est qu'il y a deux types d'idolâtrie. Il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie externe, externe à nous, qui est constituée de des images, des statues dont qu'on fustige facilement, hein, comme étant un danger. Et il y a l'idolâtrie interne, celle qui se produit dans notre âme. Cette idolâtrie qui se fait dans nos émotions. On a envie de quelque chose et après cette envie devient une soif intense de la posséder. L'intelligence, la pensée, et tout ça c'est notre âme. Or cette âme, Dieu veut qu'en tant que croyant, on la porte tout entier au Seigneur. Que notre adoration soit pleine et entière. Et c'est là qu'il peut vraiment habiter nos cœurs. Si on est partagé, rappelez-vous le cœur partagé de l'apôtre Jacques, eh bien, c'est quelque chose qui nous empêche d'avoir la pleine bénédiction de Dieu. Donc, l'idolâtrie aujourd'hui, en particulier dans notre Occident, est plutôt une idolâtrie interne. Bien que il y ait des idolâtries externes qui sont très très marquées aussi dans notre société. Donc une définition de l'idolâtrie, je reviens là-dessus pour bien, avant d'aborder les thèmes, les personnages bibliques, c'est que toute valeur, une valeur, vous savez, une valeur c'est la beauté, la bonté, voilà, ça c'est des valeurs, hein. Toute valeur non absolue, qui devient absolue, elle exige une place centrale dans notre vie. D'ailleurs, on peut faire d'une place centrale quelqu'un qui aime les voitures, qui aime les motos, qui aime bon, c'est pas grave, c'est une beauté en soi, mais si elle devient absolue, elle devient vite une idole. Et les idoles sont des dépendances spirituelles, comme je l'ai dit, l'idole n'est rien, mais les démons qui sont derrière, ils font des dépendances spirituelles. Donc on dépend spirituellement. Et ces idoles deviennent un mal absolu dans le roman de Tolkien, qui est ce qui a vu le Seigneur des Anneaux. Bon, voilà, c'est l'illustration de cette allez le voir pour comprendre. Et donc ça devient un mal absolu qui est dépendant et on est obligé de faire quand on a cet anneau d'aller jusqu'au bout et ensuite ça devient un mal absolu. Donc Tolkien l'a bien décrit, mais c'est aussi vrai dans la vraie vie. Tout peut devenir une idole. Un autre problème, c'est la lecture de la Bible. Très souvent, en tant que chrétien, et je pense aussi aux évangéliques en particulier, on lit la Bible en cherchant des réponses partielles, par exemple des personnages. On lit un personnage, David, et on cherche une réponse. On lit Joseph, on cherche une réponse. On lit, voilà, et on cherche des réponses comme ça. Or ça, c'est une mauvaise manière de lire la Bible. La Bible, il faut la lire dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on prend David par exemple et qu'on l'idéalise, on idéalise David, on voit pas toutes les erreurs qu'il a fait. Et du coup, on se compare en disant ah, mais je suis pas aussi bien que David. Vous voyez ? Et du coup, on n'a plus la même énergie pour dire bah, je peux moi aussi servir le Seigneur sans être David. Alors, il y en a qui veulent être David, d'autres qui veulent être Daniel, d'autres qui veulent être Joseph. Bon, peu importe. Mais c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que, en fait, tous les personnages bibliques ont tous failli. Ils ont tous failli parce qu'ils sont, ils sont des êtres humains comme nous. Hein, et ça nous montre que, eh bien, Dieu utilise des choses faibles, des choses faibles. Et donc nous pouvons nous identifier à des choses faibles sachant qu'on peut venir fort dans le Seigneur. Et ça, c'est encourageant. Donc, il faut lire l'histoire de l'humanité, la Bible comme l'histoire de l'humanité, qui s'adresse à des hommes faibles, fragiles, mais qui à qui Dieu accorde sa faveur. Et donc, là, on compte sur la grâce. Et la grâce, elle, elle est puissante, parce qu'elle nous garde dans l'humilité. Nous ne cherchons pas à devenir des héros. Le seul héros, c'est Jésus. Jésus, il est Dieu et homme, et il a fait une œuvre. Donc, personne ne peut comparer à Jésus. Et donc, ça nous reste, nous garde dans l'humilité. Et quand on ne fait pas cette lecture-là, on devient aveugle sur certaines choses et on ne les comprend pas. Je vais vous montrer un exemple. Ce sont des exemples que je vais prendre. Le premier, pour ceux qui l'ont entendu sur la prédication d'Abraham, c'est montrer qu'Abraham était idolâtre. Choquant. Attends, Abraham, le père de la foi, on peut pas dire une chose pareille. Pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Non, Abraham était idolâtre dans certains domaines de sa vie. Et écoutez la prédication que j'ai faite, je ne vais pas la refaire ce matin, il est idolâtre de son fils, Isaac. Et ça, il a apporté une malédiction générationnelle sur sa famille. Aujourd'hui, je vais parler de l'idolâtrie de Jacob. L'idolâtrie de Jacob. Jacob était idolâtre aussi, dans un certain domaine. Idolâtre de quoi ? Il y a quelqu'un qui a réfléchi déjà à cette idolâtrie de Jacob ? Pardon ? Son intégrité ? Oui, l'intégrité est positive, mais voilà. Mais il n'a pas poussé au bout, cette intégrité. Par contre, il y a quelque chose qui l'a poussé à bout, qui a fait de lui un idolâtre. Le pouvoir ? Non ? Pardon ? Non. Il était idolâtre de quelque chose. Bon, c'est l'enseignement que je vais donner, hein, donc vous n'êtes pas censé le savoir. Pardon ? Oui, alors Rachel, oui, maintenant, comment conceptualiser Rachel, l'idole ? Non, tu n'étais pas loin, Sarah. C'est l'amour sentimental. C'est l'amour sentimental. Il était idolâtre de l'amour sentimental. Voilà, c'est le thème du message, hein. Idolâtrie de l'amour sentimental. L'amour, hein, c'est facile à prêcher sur l'amour, hein, parce que tout le monde en parle. Hein, ça fait un consensus en toute la planète, toute l'humanité. Hein, l'amour, c'est célébré, ok? C'est célébré dans les chansons, dans les histoires, et ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Mais, il y a un mais, et vous me voyez venir, hein, notre culture a élevé l'attente de l'amour à un autre niveau. Et c'est ça le problème. C'est pas l'amour en soi. Mais notre culture a élevé l'attente. Par exemple, je l'ai pas vu, mais la comédie musicale Being Alive, il y en a qui la connaissent, Being Alive, bon, c'est peut-être plutôt américain, oui. Bon, dans cette comédie, disons, un homme tombe amoureux d'une femme, parce que là c'est banal, mais qui lui fera vivre un enfer. Ah, ça existe, hein ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? Voilà. Mais, dans cette comédie musicale, il insiste que seule la relation amoureuse lui donne la force de vivre. Et il ira d'une relation épuisante à une autre. Il y a une autre comédie musicale qui s'appelle The Bewitched, hein, donc l'ensorcelé, où l'actrice avoue aimer un homme qui est un insensé. Ça vous paraît étrange ? Hein, ça arrive. Et elle sait qu'il va la décevoir, mais elle est de nouveau dans la folie de l'amour et de nouveau ensorcelée par un garçon qui est géniard. Qui gêne tout le temps. Vous voyez, ces personnes, c'est un exemple, vous en avez des milliers de ces exemples-là, c'est un exemple où ces personnages sont dépendants de leur relation amoureuse, même les plus malsaines. Mais leur vie n'a de sens que s'ils le vivent dans cette dimension-là. Le pasteur Timothy Keller, qui a écrit le livre dont je m'inspire, a rencontré Sally. Sally, parce qu'il a fait aussi beaucoup de relations d'aide, Sally est une femme qui a eu le malheur de naître belle. Eh oui. voilà, vous voyez, c'est pas toujours un, hein, c'est pas toujours un bienfait. Hein. Elle savait que sa beauté physique, elle le savait, lui donnait un certain pouvoir sur les hommes. Ok. Alors au début de sa vie, hein, parce qu'elle a eu cette relation avec ce pasteur pour lui expliquer sa vie. Au début de sa vie, elle en a profité, hein, pour manipuler son entourage. Mais le problème, c'est qu'en fin de compte, ce sont les autres qui l'ont manipulée, hein, et qui ont utilisé sa beauté pour la manipuler à son tour. Finalement, elle ne supportait plus de rester seule, et elle était prête à vivre même avec des hommes qui la maltraitaient. Pourquoi est-elle tombée dans cette idolâtrie? C'est ça la question. Elle idolâtrait la relation amoureuse. Et ne pouvait plus s'en passer, hein, comme une drogue. Hein. Eh bien, parce qu'elle en était arrivée à attendre l'approbation des hommes que Dieu seul peut donner. Elle avait besoin d'être approuvée par des hommes dans son être. En fait, elle était esclave de l'amour sentimental. Vous voyez, une bonne chose devient un faux dieu lorsque les exigences dépassent certaines limites. Par exemple, l'amour dans le mariage, hein, dans le mariage il y a l'amour, hein, et il vaut mieux qu'il y ait ça qu'autre chose. Hein. Et en général, c'est l'amour-passion au début. Ok. Mais l'amour-passion se transforme après dans un amour plus engageant. Hein. Il faut s'aider, il y a les enfants, bon, il y a peut-être la passion, mais il faut autre chose. Donc, l'amour dans le mariage devient une idole, alors écoutez bien, lorsque vous permettez à votre partenaire de vous exploiter et de vous maltraiter en restant aveugle au côté pathologique de la relation. Une relation malsaine, là qui sont d'accord là. Une relation malsaine, elle n'est pas dans l'amour, ok. Et donc à ce moment-là. On rentre dans une idolâtrie quand on continue dans cette relation malsaine. Et c'est vrai pour d'autres choses que je citerai pas là, mais puisque je restais dans le sujet. Donc un attachement idolâtre, pour le conserver, peut nous amener à renier nos promesses, nos valeurs même, voyez-vous, si on reste dans cette idolâtrie, et à violer les limites de ce qui est juste, de ce qui est bon. C'est ça, le problème de l'idolâtrie, c'est pas simplement spirituel, mais c'est que ça nous fait faire des choses qui sont mauvaises. Et c'est ce que l'ennemi veut. Hein. Il veut toujours nous entraîner vers le mal. Alors regardons Jacob et Léa. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps de tout traiter sur Jacob, mais il y a deux personnes qui sont idolâtres dans ces passages-là, c'est Jacob et Léa. Il y en a un qui va pas s'en sortir, il y en a une qui va s'en sortir merveilleusement, c'est Léa. Contrairement à ce qu'on croit, c'est Léa qui sort de l'idolâtrie et pas Jacob. En fait, Jacob, il est déjà coincé au départ. Avant de naître, il est déjà dans une ligne idolâtre. Abraham, son grand-père, Isaac. Voyez-vous, Abraham, prenons cette ligne idolâtre, Abraham engendre Ismaël. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a pas attendu la promesse. Dieu lui a fait une promesse. Il a dit, de toi sortira une multitude que tu pourras même pas compter. Donc il avait une promesse extraordinaire, il n'a pas attendu. Isaac. Et sous la pression de sa femme, Sarah, qui lui propose sa servante, hein, comme mère porteuse, vous voyez, comme quoi c'est pas moderne, hein, ça a toujours existé. Hein. Donc voilà, il propose une mère porteuse. Eh bien, quand Agar à son fils, elle méprisa Sarah. Voyez-vous, le mal tout de suite est entré à cause de la désobéissance. Donc Agar, tout de suite, elle a même pas enfanté, elle était juste enceinte, et la mépriser Sarah. Et celle-ci rapporte à Abraham en disant, bah, attends, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, je suis méprisé par la servante. C'est quoi ce truc-là? Et Abraham, il livre Agar entre les mains de Sarah en disant, bah, écoute, fais-en ce que tu veux. C'est pas mon problème. Hein. Et Sarah la maltraita. Et où la maltraitance commence dès qu'on rentre dans une idolâtrie. Et on voit la chaîne de maltraitance liée à cette idolâtrie. De la fertilité maternelle. Hein. Vous voyez, c'est l'adoration de la fertilité maternelle. Comme Dieu ne fait rien, on va utiliser une fertilité qui est sous la main. Hein, et hop, et cette idolâtrie amène, eh bien, la malédiction sur non seulement la lignée immédiate, mais aujourd'hui encore, hein, on souffre. De cette race arabe qui est issue de cette malédiction. Hein. Donc ça va très très loin. Isaac. Prenons Isaac, qui est sorti, qui est la continuité d'Abraham en tant que génération. Eh bien, il reproduit l'idolâtrie, Isaac. Pourquoi est-ce qu'il reproduit l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'il fait d'Abraham, d'Isaac un idolâtre? Hello? Encore une devinette? Vous connaissez l'histoire d'Isaac? Eh bien, il préfère qui? Ésaü à Jacob. Est-ce que c'est juste? Non? Oui, vous connaissez les réponses. Pourquoi c'est pas juste? Parce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui? L'aîné sera assujetti au plus jeune. Dieu avait parlé. Et il avait parlé à Sarah. Sarah le savait. Non, Rebecca, pardon. Elle le savait. Genèse, chapitre 25, verset 23. Il a dit à Rebecca, l'aîné, c'est-à-dire Jacob, Ésaü, sera assujetti à Jacob, donc au plus jeune. Donc, il savait que Dieu préférait Jacob. Et pourquoi est-ce que Isaac a préféré Ésaü, à votre avis, si vous connaissez l'histoire? Pardon? Voilà, c'est le ventre. Ah, il aimait les bonnes choses, hein, Isaac. Gibier, alors lui, la chasse, hein, il en connaissait quelque chose. Lisez vos Bibles, c'est ça. Hein. Il aimait tellement son ventre et les bons mets et tout ça. Le problème, c'est qu'Ésaü... Il faisait ce que papa voulait, il était chasseur aussi, il aimait ça, sa passion et tout ça. Et Jacob, malheureusement, il était dans les jupes de sa maman. Il restait à la maison. Et ça, ça a énervé Ésaü et Isaac. Et c'est quoi ça? Il reste avec sa maman, il aime bien la maison, il est... Voilà, pardon? Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais vous voyez, au lieu de mettre à la place ce que Dieu a dit, il mettait à la place ce que son ventre dictait. Voyez. Et donc, il allait vers son fils qu'il aimait le plus, c'était Ésaü. Et donc, il ne tenait pas compte de la priorité. C'est pour ça que l'idole, c'est toujours une priorité. Où est-ce que nous mettons nos priorités? Ok, c'est ça. Vous voyez que ça commence très petit. Et voilà comment ça termine. Donc, Isaac préférait Ésaü car il était chasseur. Un homme de la compagne, comme lui, son père, hein, vous voyez, il y a des atomes crochus qui allaient entre eux. Et Jacob préférait rester sous les tentes, avec sa maman. Donc Isaac idolâtrait son fils, qui lui procurait ce gibier, plutôt que le fils désigné par Dieu pour porter la promesse messianique de la nation d'Israël. Pourtant c'était Isaac, le patriarche. Voyez-vous la faiblesse des hommes? Voyez-vous, pour pas grand chose, on peut tomber dans des difficultés. Et là aussi, regardez la malédiction, la maltraitance que apporte cette idolâtrie dans la famille. On arrive à Jacob. Jacob, à son tour, il a préféré qui? Rachel. Et ses fils. Et ses fils. Si encore c'était que Rachel, mais ses fils. Voilà, Joseph, Benjamin, il a préféré, alors là, je vais pas lire tout le passage, mais c'est absolument ahurissant quand vous voyez ça, il a idolâtré l'amour-passion de la beauté physique de sa femme. Oui. Eh oui. C'est ça, ça. Et on va voir le mécanisme. Le mécanisme est très subtil qui se produit aussi en nous et nous avons besoin d'apprendre de cela. Et ainsi, il provoqua une série de maltraitances familiales entre ses propres fils. Regardez ce qui est passé avec Joseph. Ils ont même voulu le tuer, ses frères, tellement il était exécrable, rien que de le voir, parce que c'était le chouchou de papa. Voilà. Le favoritisme d'Isaac a rendu Ésaü orgueilleux, gâté, obstiné et impulsif. Alors que Jacob est devenu cynique et amer. Vous savez, la vie de Jacob était en ruine. Il a obtenu ce qu'il a voulu, hein, contre le gré de son papa. Malgré la promesse de Dieu, il a été béni par son père par un subterfuge très habile, où il a reçu la bénédiction de son père. Mais il a dû fuir toute sa famille. Il n'a plus jamais revenu, ni son père, ni sa mère. Il avait perdu sa famille et son héritage. Dans Genèse, chapitre 29, on va quand même lire ce passage-là pour bien camper le décor. Genèse, chapitre 29, versets 16 à 20. C'est assez court. Or, Laban... Donc il est parti, hein, il a dû fuir, et il est parti chez Laban. Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa, et le nom de la cadette, Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. Alors on discute beaucoup sur le mot délicat. Qu'est-ce que ça veut dire délicat? Délicat, est-ce que c'est les yeux de colombe? Il semblait, le plus vraisemblable, c'est qu'elle louchait. Voilà, bon. Alors c'est une façon, vous voyez, les Juifs sont très, hein, très bons dans l'humour, donc voilà. Elle louchait. Bon, c'est vrai que c'est pas évident d'épouser une femme qui louche. Bon. Hein. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli, et je veux aller vers elle. » En fait, là aussi c'est mal traduit, c'est « je veux coucher avec elle ». Bon, enfin, ça c'est du direct traduction. Laban, vous voyez, ça veut dire que c'est très fort, hein, sexuellement, il était très impliqué dans cette relation. Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa femme, Léa, et l'amena vers Jacob qui alla vers elle. Laban donna sa servante Zilla pour servante et sa fille Léa. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Eh, t'es malin. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu rendras encore chez moi pendant 7 ans. Refait 7 ans. Voilà. Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa femme, fille Rachel. Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Alors pourquoi cette ardeur de Jacob? Alors là, il faut bien comprendre la psychologie de Jacob, pour comprendre nous aussi comment nous pouvons être vulnérables aux idoles. Les choses s'expliquent toujours. Le problème, c'est que quand on tombe dedans et qu'on s'explique, qu'on l'explique, il vaut mieux le savoir avant pour ne pas tomber dedans. Donc, c'est pour ça l'enseignement est là, pour nous aider à être avertis. Jacob était solitaire, il était tout seul. Vous rappelez, c'était un célibataire. Vous voyez, les célibataires, bon, il y a quand même des besoins. Il était solitaire. 2, il était mal aimé de son père, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait perdu, l'amour de sa mère, il la voyait plus, donc il n'avait plus rien. De plus, il ne connaissait certainement pas l'amour et la bienveillance de Dieu, comme on la connaît aujourd'hui au travers de Jésus. Donc c'était un Dieu Jéhovah, mais qui était lointain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans cette contrée qu'il ne connaît pas, hostile, et il pose les yeux sur la belle Rachel, et il se dit au fond de lui-même, « Si je l'avais pour femme, je posséderais enfin quelque chose de bien dans ma vie misérable. » Vous voyez la psychologie? C'est qu'à un moment donné, il y a des chrétiens parfois qui disent, « Ah oui, mais quand même, le Seigneur, il va me permettre ça parce que je travaille tellement pour lui que je suis... » Vous voyez, et souvent, il y a des péchés comme ça qui se font, même par des serviteurs de Dieu, que ce soit l'alcool ou les femmes, etc., parce que on a un peu pitié de soi, hein, quand même. Le Seigneur, bon, il me connaît, voilà, vous voyez. Voilà, un petit peu de pitié, voilà, et puis hop, on glisse. Si je l'avais, tout irait mieux. Ce petit réflexe conduit à l'idole. Si je l'avais, tout irait mieux. Les aspirations de son cœur et le sens de sa vie étaient fixés sur Rachel. C'était pas sur Dieu, c'était sur Rachel. L'amour-passion. Alors il y a un grand professeur aux États-Unis, écrivain aussi, qui s'appelle Ernest Becker, d'immigrant juif, qui a écrit, un sociologue aussi, qui a expliqué dans un livre qui est sorti il y a une trentaine d'années ou 25 ans, il explique comment la culture séculière aujourd'hui, séculière ça veut dire sans Dieu, hein, dire la culture qu'on connaît, hein, où on laïque, on veut pas, voilà, la culture séculière gère la perte de foi en Dieu. Avant, les gens avaient la foi en Dieu. Je dis pas que c'était une foi solide, hein, mais il y avait comme une foi. Ils croyaient en Dieu. Même s'ils l'appelaient le bon Dieu. Mais bon, on peut reprocher un tas de choses au passé, mais n'empêche que la foi était présente. D'ailleurs, Yong Gicho l'a très bien vu quand il a survolé la France. Il a vu partout, dans chaque ville, chaque village, il y a un clocher. Ça veut dire qu'il y avait quand même la foi en Dieu. Moi, j'ai connu, moi, quand j'étais jeune, des paysans qui, dans le champ, s'arrêtaient quand il y avait l'Angélus et ils se mettaient à prier dans les champs, même s'ils étaient catholiques. Mais il y avait une foi. Vous voyez, on s'attendait à Dieu. Donc, on n'est pas là pour se moquer de ces choses-là, mais il y avait réellement une foi qui existait. Bon, cette foi-là a disparu. Mais l'aspiration du cœur est toujours la même. Il faut la remplacer. Donc, Ernest Becker dit, par quoi est-ce que cette civilisation la remplace? Eh bien, il donne une explication à cette théorie qui s'appelle l'amour apocalyptique. Il dit, voilà, à la place de Dieu, c'est l'amour apocalyptique. Alors, rassurez-vous, je ne peux pas vous expliquer tout parce que la romance apocalyptique, parce que j'ai pas tout lu son bouquin, c'est la romance apocalyptique. Voilà, qu'est-ce que c'est? En fait, on attend d'une relation amoureuse et de la sexualité une signification, quelque chose qui transcende, quelque chose qui va au-delà du rapport, hein, qui va chercher quelque chose dans l'absolu, hein, que nous trouvions autrefois dans la foi en Dieu. Ça fait réfléchir. Et il a essayé de montrer comment les gens aujourd'hui vivent pour que cette foi en Dieu, eh bien, soit remplacée, parce qu'il faut toujours la remplacer par quelque chose, par cette romance apocalyptique. La solution romantique, la romance, hein, qui est en fait une glorification de soi, peut être son amant. Voilà sa thèse. En un mot, l'objet de l'amour devient Dieu. Vous avez un objet de l'amour, vous projetez cet amour sur cet objet, et il devient Dieu. Et c'est là que vous avez l'idole. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob était tout seul. Bon, bien sûr, il croyait en Dieu, comme tout le monde, mais vous voyez, c'était pas une croyance qui était sa priorité. Sa priorité, c'était Rachel. Il voulait absolument l'épouser. Hein, parce que il en était fou amoureux. Et du coup, l'objet, Rachel, est devenu, eh bien, un Dieu pour lui. C'est ce que Jacob a fait. Il y a une chanson qui dit, tu n'es personne jusqu'à ce que quelqu'un t'aime. Vous avez déjà entendu des chansons comme ça? Tu n'es personne. C'est-à-dire que ton identité, elle existe quand quelqu'un t'aime. Donc nos attentes atteignent un tel sommet avec ce genre, si vous voulez, de civilisation qui nous pousse à ça, que aucun être humain ne les qualifier pour jouer ce rôle. Si vous attendez de votre partenaire qu'il soit un dieu, ben vous serez déçu. Et d'un côté et de l'autre. Okay. Or, c'est ce que fait cette civilisation qui ne veut plus croire en Dieu, mais qui veut croire dans l'amour, dans la romance apocalyptique. Ce qui fait que, eh bien, ça n'apporte que des illusions amères et un résultat inévitable qu'on peut attendre. La puissance de l'amour. Certains disent que cette analyse de Becker est démodée, et je veux bien le croire, ça va très vite en ce moment, et qu'on est dans une société de copains d'un jour, dans laquelle les jeunes, ils ont banalisé la sexualité et sont libérés de tout engagement. Voilà, copains d'un jour, voilà, on couche avec quelqu'un, on jette, on prend une autre, ça va plus, on s'aime plus, vous voyez. Bon, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus banal que la romance apocalyptique. L'amour sentimental exerce une puissance énorme sur le cœur et l'imagination humaine. C'est pour ça aussi on a toutes ces chansons et tout ça, parce que on est très très sensible à cet amour sentimental. Mais elle prend une place excessive dans nos vies, et quand elle le fait, elle devient une idole. Oui, à tel point que Jacob est devenu aveugle. On se pose la question... Quand on vit la vie de Jacob, on dit mais comment ça se fait qu'un gars aussi rusé, c'est incroyable, hein, comme il a rusé pour son père. Hein. Je veux dire, il faut le faire. Hein. Bon, c'est vrai qu'il avait sa mère comme complice. Hein. Bon, ah, c'était quand même un bon complice pour l'aider hein, à obtenir la faveur. Mais un gars aussi rusé qui a réussi avec son père en mettant une peau de chèvre, en imitant la voix de son frère, enfin bref, tous les artifices et machins, etc., il s'est fait rouler par Laban. Incroyable, quand même. Laban l'a roulé, hein, quand même. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Pendant 7 ans, il bosse comme un malade. Alors, c'est au moins 40 fois la dot hein, qu'on demandait à l'époque. Hein. Je veux dire, c'est énorme. Hein. Il a accepté quelque chose d'absolument inimaginable parce qu'il voulait Rachel. 7 ans. Et rebelote, il refait 7 ans derrière. Eh bien, il était aveugle. Il est devenu aveugle. L'amour rend aveugle, hein, c'est ce qu'on dit. L'amour rend aveugle. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Pardon? Et il rend l'âge, rend la vie. Voilà. Il y a un tel vide intérieur dans Jacob qu'il a rendu vulnérable à un amour idolâtre. Donc il a offert les 7 ans de travail pour avoir le droit d'épouser Rachel, et Laban a vu qu'il était malade d'amour. Et oui, les gens malins, ils voient des choses. Hein. Vous voyez pas, mais lui, il a vu. Hein. Il a dit, celui-là, je peux l'avoir. Et si vous lisez bien le texte, vous voyez qu'il n'a pas promis Rachel. Hein. Il n'a pas promis Rachel. Mais lui, comme il attendait d'avoir Rachel, lui, il a entendu qu'il lui donnait Rachel. Il n'a pas dit Laban. Hein. C'est des rusés. Et malin. Comme quoi l'amour rend aveugle. Et on est naïf quand on est dans une pensée qui n'est pas juste et qui est idolâtre. Et du coup, Laban a pu le rouler sans qu'il s'en rende compte. Il a mis au profit cette situation en lui filant Léa. Le jour des noces, hop! Le jour des noces est passé, il s'en est même pas aperçu, c'est le lendemain matin qu'il a vu que voilà, c'était trop tard. Comment Jacob a-t-il pu être aussi crédule? Eh bien, est-il victime de la dépendance amoureuse? Je reviens à Sally, la femme qui a eu le malheur de naître belle, hein, dont j'ai cité tout à l'heure. Cette femme Sally, voilà ce qu'elle a confessé à ce pasteur. Hein. Cette jolie femme a dit un jour, les hommes étaient mon alcool. Ce n'est qu'au bras d'un homme que je pouvais faire face à la vie et me sentir bien. Parce que cette femme s'est convertie après. Et voilà, c'est donc à ce moment-là qu'elle a pu dire, voilà, à cette époque-là, les hommes étaient mon alcool. Voyez-vous, des hommes, c'est vrai aussi pour des hommes, hein, ils s'amusent avec les filles, cherchent à se sentir désirable et puissant, hein, d'être, voilà, j'ai été choisi comme hein, le prince charmant, etc. Vous voyez, c'est pareil, hein, c'est réciproque. Pour Jacob, Rachel n'était pas simplement sa femme, mais c'était son sauveur. Il a sauvé Jacob, de cette attitude misérable qu'il avait. Il la voulait tellement qu'il ne voyait que ce qu'il voulait entendre et voir. C'est pourquoi il est tombé dans les pièges de Laban aussi facilement. Et plus tard, l'idolâtrie de Jacob envers Rachel créera des décennies de malheur dans sa famille, car il adorera et préférera les fils de Rachel à ceux de Léa, pourrissant le cœur de ses fils et empoisonnant tout le système familial. Mais la plus grande victime, c'est Léa. La plus grande victime, c'est Léa. C'est vrai que elle louchait, c'est pas de sa faute, hein. Bon, voilà. Bon, on a le droit d'exister, hein. Bon, voilà. Oh, elle était pas aussi belle que Rachel. Bon, bah, c'est pas de sa faute non plus, voilà. Mais c'est elle qui a été pénalisée. Hein. C'est elle qui a pénalisé. Mais voyez l'histoire. C'est pour ça qu'il faut voir l'histoire biblique comme une grande histoire que Dieu rétablit des choses malgré les erreurs des uns et des autres, hein, qu'ils soient patriarches, qu'ils soient des grands hommes de Dieu, Dieu rétablit les choses. Et heureusement, hein, la justice est là. Parce que Léa l'a mal aimée de sa famille, mal aimée de son entourage, personne ne la voulait pour être épousée, hein, mal aimée parce qu'en fait, elle a bien vu que Laban, hein, l'a refilé à Jacob, bon, pour s'en débarrasser parce que il aurait pas eu de dot, voilà. Enfin, vous voyez. C'est grave, hein. Mais elle était mal aimée. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Léa? Qu'est-ce qu'elle est devenue? L'arrière-grand-mère de Jésus. Hello? Ça vous dit quelque chose? Eh oui. Voyez-vous, Dieu prend soin de ceux qui sont mal aimés. Dieu prend soin de ceux qui sont maltraités. Dieu prend soin de la veuve de l'orphelin. C'est ça que Dieu fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire. C'est pas Jacob. Jacob, bon, il était comme nous. Bon. Mais Dieu, lui, dans cette histoire-là, rétablit les choses. Et je parlerai la prochaine fois de Léa, qui, elle, est sortie de l'idolâtrie. Et Jacob est resté dans l'idolâtrie. C'est la grande différence de cette histoire. Parce que, à un moment donné, Léa a compris qu'elle était idolâtre de Jacob, parce que elle lui a donné des fils. Et elle pensait obtenir la faveur de son mari. Elle l'a jamais obtenue. Et le dernier fils qu'elle a eu, le dernier, Judas, elle a dit maintenant, je me balance de mon mari. Si Jacob ne m'aime pas, c'est la louange à Dieu. Judas veut dire louange à Dieu. Elle a loué le Seigneur. Vous voyez? Elle a détourné. Et c'est ça, quand on veut sortir de l'idolâtrie, il faut sortir de ce qu'on apprécie le plus, mais qui n'est pas Dieu, pour aller vers celui qui est l'ultime, qui est Dieu. Et c'est là qu'on sort. Vous voyez, on sort pas en se grattant, en se cognant la tête, la méthode Coué, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Non, c'est pas ça. Il faut que je me tourne vers celui qui est l'absolu, l'ultime. Au-dessus de tout, parfait, bon, merveilleux, c'est Dieu. Ok? Et c'est là la seule possibilité que nous ayons pour sortir de l'idolâtrie. L'amour sentimental, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Jacob est tombé dans l'idolâtrie de l'amour sentimental. Si les passions, à un moment donné, peut se passionner pour une femme, il a le droit de se passionner pour Rachel, doit rester dans les limites que Dieu a données. Et c'est l'amour basé sur des échanges sains, équilibrés, qui doit prendre le relais. Jacob ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait jusqu'au bout. Il est resté bloqué sur Rachel et sur ses fils et a fait souffrir toute sa famille. Mais la prochaine fois, nous verrons Léa qui, elle, est sortie. Qui, elle, est sortie. Qui a donné naissance à un fils, Judas, qui a donné naissance au Messie, à Jésus. Amen. Ne nous laissons pas piéger par les idoles. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il y a des idoles internes, des idoles externes. Et les idoles internes sont à deux niveaux, sont très difficiles à déceler. L'idole de l'argent, c'est une idole superficielle. Derrière la motivation. Il y a des gens qui sont idolâtres de l'argent, mais il y en a qui sont des bienfaiteurs, qui donnent à tout le monde, et d'autres qui sont avares et qui font autre chose. C'est la motivation. Donc on verra un peu les racines profondes de l'idole, et ça c'est très difficile à débusquer. parce que nous en sommes tous plus ou moins victimes, et nous avons besoin bien d'être attentifs, et c'est pourquoi nous avons besoin de nous retrouver comme cela dans des cultes d'adoration. Parce que c'est en adorant que nous nous déportons de cette recherche idolâtre pour nous adresser au Dieu vivant qui nous donne la pleine satisfaction. Et qui ensuite, après, nous permet de relativiser les autres choses, que ce soit l'amour sentiment, que ce soit l'amour d'un fils ou d'une fille ou d'un enfant comme Abraham ou d'autres. On verra 9 personnages en tout des idoles pour montrer que les idoles, on doit les débusquer en adorant de plus en plus le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions parce que nous voyons que tous les personnages qui sont dans ta parole, Seigneur, ne sont pas parfaits. Et forcément parce qu'ils sont engendrés par dans la chute, comme nous, Seigneur, mais que nous avons besoin d'être attentifs, Seigneur, à ce que ta parole nous dit à ce propos. Et que, Père, même si nous avons la foi en toi, nous pouvons faire beaucoup de dégâts ailleurs si nous sommes dans des attitudes idolâtres. Et nous te demandons de nous aider à nous garder de ces idoles. Et Seigneur, à demeurer centré sur toi, centré sur Christ, centré sur celui qui seul est capable de nous donner l'approbation, seul est capable de donner la satisfaction dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à ne pas dévier. Et si nous avons dévié quelque part, ou si nous sommes en train de dévier, tu nous ramènes, Seigneur, à la véritable adoration, afin que nous puissions vraiment te plaire et être sous la bénédiction et non pas sous la malédiction. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.